Chapitre 5. Le Val d'Arsène. À la sortie de Biville, Bergton s'arrêta au bord de la grande voie rapide rectiligne qui relie Dieppe au Tréport.
Bien, cher Paloma, en route pour la seconde grande étape de notre journée. Après le littoral, le pays de Caux. Ses chemins creux, ses manoirs, ses ondulations, comme disait Leblanc.
Où va-t-on ?
En Brumaisie, bien entendu. C'est à moins de 30 kilomètres. On aurait pu passer par Envermeux. Leblanc cite ce village dans l'aiguille creuse à 10 kilomètres d'ici. Isidore Boutrelet va y faire une enquête. Il y apprend qu'un couple d'Américains s'est suicidé dans ce bourg et que les deux cadavres ont été volés par Lupin, puis défigurés pour qu'ils puissent se faire passer pour morts avec Raymond de Saint-Véran.
« Charmante étape !» commenta Paloma. « Je vais la regretter. »
Bergton se retourna.
« Vous me suivez ?»
Il partit en trombe. En roulant derrière lui, Paloma ne pouvait s'empêcher d'admirer la vitalité du professeur, son énergie communicative. En moto, ils passèrent facilement la périphérie de Dieppe. Paloma eut à peine le temps de lever les yeux vers les ruines mélancoliques du vieux château d'Arc. Ils remontèrent sur Offranville, et un kilomètre plus tard, ils entraient dans un petit village appelé Embruménil. Ils traversèrent le village et s'arrêtèrent au bord d'un champ de colza. En face d'eux, un haut mur de pierre longeait la route.
« Le château est derrière », précisa Bergton.
« Ce village s'appelle Embruménil. Je croyais que Maurice Leblanc parlait d'Embrumésie dans son roman. »
« Oui, il s'amusait souvent à brouiller un peu les pistes, mais il n'y a pas de doute. » Embrumésie, c'est Embruménil. La description correspond. Les ruines du monastère d'Embrumésie, soi-disant célèbre au Moyen-Âge, ainsi que la crypte du château n'ont jamais existé. Même s'il y avait un prieuré à Embruménil. Maurice Leblanc indique aussi que, par-dessus les murs du parc et au-delà du plateau que soutiennent les falaises normandes, on aperçoit, entre les villages de Sainte-Marguerite et de Varangeville, la ligne bleue de la mer.
C'est vrai ?
Pas vraiment. On peut penser que Leblanc se réfère plutôt au manoir d'Angot dans la commune voisine. De son manoir, le célèbre armateur Diepois pouvait effectivement surveiller ses bateaux en mer. Pour Embruménil, il faudrait monter au dernier étage du château pour le vérifier. Mais ce château est une propriété privée. Maurice Leblanc parle aussi souvent du petit village d'Ouville-la-Rivière, juste en contrebas, dans la vallée de la Saâne. C'est notamment d'Ouville que vient la gendarmerie.
On essaie d'entrer ?
Ils cherchèrent à pénétrer dans le château, mais le portail était fermé et le mur trop haut pour être franchi. Finalement, derrière une petite chapelle au bord de la route, ils finirent par découvrir un grillage un peu lâche par lequel il semblait possible de se faufiler. Paloma passa la première, sans hésiter, facilement. Bergton resta derrière.
« Vous venez ? » ?»«
C'est une propriété privée.
Et alors ? » ?»«
Et le grillage ?»
Quel aventurier vous faites ? Un simple grillage. Et vous allez courir l'aventure au bout du monde. Je voudrais bien vous voir dans les souterrains de Moldavie.
Vexé, Bergton passa à son tour, en prenant garde à son pantalon de toile beige clair. Ils se retrouvèrent dans le grand parc d'un château, au ton rose, assez bien restauré. La pelouse était fraîchement coupée. Paloma s'assit en tailleur sur l'herbe.
Parlez-moi du drame d'Embrumésie.
Vous savez déjà presque tout. Le roman « L'aiguille creuse » commence ici, au château d'Embrumésie. Il se poursuit dans le pays de Caux jusqu'à Étretat et se termine à la ferme de la Neuvillette, au-dessus de la valeuse de Parfonval, d'où nous venons. À Embrumésie, Lupin tente un cambriolage, mais se trouve blessé d'un coup de carabine bien tiré par Raymond de Saint-Véran, une belle orpheline mélancolique. Lupin se réfugie dans une crypte secrète. La douce Raymonde, qui le découvre, n'a pas le courage de le dénoncer. Elle le soigne en grand secret. Immanquablement, Lupin tombe amoureux de sa tendre infirmière. Mais celle-ci se refuse à lui. Soigné, il la fait enlever, maquille leur double mort à Varangeville et disparaît. Il laisse cependant traîner derrière lui le cryptogramme de l'aiguille.
Paloma poursuivit.
Isidore Boutrelet le découvre et cherchera à l'élucider partout en France jusqu'à revenir à l'aiguille d'Étretat pour y retrouver Lupin.
C'est cela, cher Paloma, avec pléthore de rebondissements. Un autre élément intéressant de ce début de l'aiguille creuse, c'est le périple en vélo d'Isidore Beautrelet. Le vol d'Embrumésie concerne 4 tableaux de Rubens. Isidore se demande comment Lupin et ses complices ont pu les escamoter alors que toutes les polices de France sont sur les dents et toutes les routes surveillées. Il parcourt le pays de Caux à vélo. Maurice Leblanc nous indique qu'il file sur la route d'Hierville, vers Caudebec-en-Caux, puis en amont vers le bac de la Malleraie. Il finit par trouver la solution au hameau de Louveteau, au carrefour de Caudebec-en-Caux et Difteau. Plus précisément dans le cabaret de Maître Vatinel, un de ces vieux Normands finaux qui se tiennent toujours sur leur garde, qui se méfient de l'étranger mais qui ne savent pas résister à l'attrait d'une pièce d'or et à l'influence de quelques verres. Charmante description du cauchois. Oui, on en trouve quelques savoureuses dans les aventures d'Arsène Lupin. Donc, ce maître Vatinel indique à Beautrelet que plus de 6 fois, il a chargé sur une péniche des colis mystérieux. Non seulement les 4 Rubens, mais également en pierre détachée la plupart des sculptures de la chapelle gothique d'Embrumésie, remplacées par des copies en plâtre. Paloma sortit sa carte de son sac et entoura les lieux cités. Bergton sourit.
Très bien, Beautrelet, bon réflexe, n'oubliez aucun lieu. C'est sans doute la clé de l'énigme.
Dans le silence du grand parc, la sonnerie du téléphone portable de Bergton résonna soudain. Un message. Il sortit l'appareil non sans une certaine angoisse. Il lut. Deuxième avertissement. Stoppez vos recherches avant qu'il ne soit trop tard, ou les conséquences seront terribles. Roberto Martinez, La Folie.
Encore lui ? Demanda Paloma inquiète.
Encore lui, il faut pas faire attention. Il ne me semble pas dangereux. Nous aurons la solution de tout ceci avec la clé de l'énigme.
Paloma, moins rassurée, admira la détermination du professeur. À ce moment, une porte du château s'ouvrit et un aboiement aigu de chien retentit.
Nom de Dieu ! Fit Bergton.
Paloma fut plus rapide et franchit rapidement le grillage pour ressortir du parc. Bergton la suivit, mais maladroit, il déchira une bonne partie du bas de son pantalon de toile dans le grillage. Derrière le grillage, un minuscule caniche jappait avec hargne. Paloma éclata de rire.
On va finir par devenir parano, et vous allez finir en short, monsieur le professeur. On continue tout de même ?
Bien sûr, grogna le professeur un peu vexé.
Mais au fond de lui-même, beaucoup plus qu'un pantalon déchiré, beaucoup d'autres éléments inquiétaient Roland Bergton. Beaucoup plus qu'il ne voulait le montrer à la jeune étudiante. Ce mystérieux Roberto Martinez, l'étrange collier d'argent et de cristal de Paloma, et bien sûr, l'œuvre de Maurice Leblanc.
« Où va-t-on maintenant ?»
s'impatienta Paloma.
« Au château de Guer, bien entendu.
C'est loin ?
1 kilomètre, juste en dessous dans la vallée. »
Une minute plus tard, ils entraient dans le village de Guer, un délicieux village tout en longueur le long de la petite rivière, la Saane. Bergton arrêta sa moto au centre, devant un grand porche en pierre.
Voici le fameux château de Guer, dissimulé discrètement derrière cet anonyme porche, sans qu'aucun panneau ne l'indique.
Ils entrèrent dans la propriété privée, se méfiant cette fois-ci de la présence d'un chien. Le parc était magnifique, notamment toute la partie bordant la Saane qui traversait la propriété. Pont de bois, cascades. Ils regardèrent de loin, de côté, la superbe façade du château et les élégantes alternances de briques roses et de pierres blanches. Bergton commença ses explications.
Maurice Leblanc passa une dizaine d'étés dans ce château entre 1900 et 1910.
La période d'or de Lupin.
Ouais. C'est ici que Maurice Leblanc a écrit toutes les premières aventures d'Arsène Lupin. Ce château fut loué par l'une de ses sœurs, Jeanne. Maurice Leblanc dormait souvent à l'écart, dans une des multiples dépendances, dans un petit bâtiment de jardinier près du potager. C'est exactement ce même cadre qu'il choisira de décrire dans La Comtesse de Cagliostro.
Que s'est-il passé ici ? Pour Arsène Lupin, je veux dire.
D'accord.
rangez dans un coin de votre tête l'histoire de l'aiguille creuse. D'Embrumésy à Étretat, puis par Fonval, nous en avons fini avec elle. Nous allons maintenant concentrer l'essentiel de la suite de notre voyage au deuxième grand roman de Maurice Leblanc, La Comtesse de Cagliostro. Souvenez-vous, nous avons laissé Lupin, alias le jeune Raoul d'Andrésy, dans une grange près de Bénouville, avec la comtesse Joséphine de Cagliostro qu'il vient de sauver de la noyade. À son réveil, la Cagliostro a filé. Espionnant le baron d'Étigues, le jeune Lupin apprend que tous les conspirateurs partent fouiller le château de Guer. En effet, ce château, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait appartenu au chevalier des Aubes, dépositaire du secret du trésor des moines normands, qui avoua au cardinal de Bonnechose son secret. De plus, avant de mourir, le chevalier cacha dans le jardin du château la mystérieuse branche d'un chandelier qui en comptait 7. Leblanc décrit, pour les besoins de son roman, le château comme un manoir entièrement délabré, alors que sa sœur avait fait des efforts considérables pour composer un endroit ravissant. Que fait Lupin ? Coupa Paloma, toujours aussi peu intéressée par la vie réelle de l'écrivain. Un acte particulièrement culotté. Il va à la rencontre des 9 conspirateurs et leur fait croire que la branche de chandelier se trouve dans les caves du château. Lorsqu'ils sont entrés, il les enferme, découvre en un éclair le chandelier dans l'un des 12 piliers de briques devant le château. 12 piliers ! Toujours ce nombre 12 ! Et comment a-t-il découvert aussi rapidement la cachette ? C'était le seul pilier qui ne datait pas du XVIIe siècle. Joli ! Mais les conspirateurs sortent de la cave. Toutes les issues du château sont bloquées. Lupin est perdu. Lorsqu'une porte derrière le potager s'ouvre, la main de la comtesse de Cagliostro le tire hors de la propriété. Le potager ? Celui où Leblanc dormait ? Exactement. Les descriptions sont authentiques. Le parc du château s'étend tout le long du village. Une petite porte percée dans le mur de l'enceinte de l'église, à l'autre bout du village, s'ouvre effectivement sur le parc. La suite du roman est une course-poursuite, un road movie, dirait-on aujourd'hui, à travers le pays de Caux, de Guer jusqu'à Caudebec-en-Caux. Exactement le même parcours qu'Isidore dans l'Aiguille Creuse. C'est curieux, non ? C'est juste. À notre tour maintenant, nous allons suivre la piste cauchoise des deux amoureux en cavale, Arsène et Joséphine. Maurice Leblanc raconte qu'ils se sont enfuis à bord d'une vieille berline tirée par 2 chevaux maigres et peu soignés, et qu'ils prirent la route de Luneray, puis de Doudeville. On marche dans leurs pas ? On galope ? Nous avons juste troqué les 2 chevaux maigres et peu soignés par 2 motos crottées de faibles cylindrées. N'aurait jamais dû commencer notre voyage par un parcours en Maserati Spider. Vous vous êtes habitué au luxe, bel enfant gâté.
Ils rirent tous les 2. Ils reprirent les motos et remontèrent vers le plateau de Caux. Ils traversèrent Luneray. Ils empruntèrent ensuite une petite route à travers les champs et parvinrent à Gruchet-Saint-Siméon. Bergton s'arrêta un instant.
C'est ici, dans ce petit village, qu'en 1898, Maurice Leblanc renoua son histoire d'amour avec le pays de Caux, après sa période parisienne. Il passa ici l'été, à l'invitation de sa sœur Georgette, la comédienne qui avait loué cette maison de briques devant nous.
Et Lupin ?
Il n'y a que ça qui vous intéresse ? J'enquête, je note les lieux cités dans les aventures de Lupin, pas ceux fréquentés par Leblanc. Alors Leblanc évoque plusieurs fois le cambriolage de Gruchet parmi les crimes de Lupin, sans plus de détails.
Ils reprirent la route, traversèrent Crasville-la-Roquefort pour reprendre une départementale rectiligne, la route de Veules à Rouen. Quelques kilomètres plus loin, Bergton se laissa glisser à la hauteur de Paloma.
Écoutez, une petite histoire cauchoise qui n'a rien à voir avec Lupin. À votre droite, vous avez le village de Canville, et à votre gauche, celui de Sasto. Un soir, des habitants de Canville allèrent dérober le clocher de l'église de Sasto.
Et alors ?
Regardez les panneaux.
Sur sa droite, elle lut une direction. Canville, les 2 églises, et immédiatement sur sa gauche, une autre direction. Sasto, le mal gardé. Elle sourit de l'anecdote. Était-elle véridique ? Mystère. Quelques kilomètres plus loin, près d'Hierville, Bergton fit signe à Paloma de tourner à droite. Ils prirent la direction Tibermesnil. Ils s'arrêtèrent quelques instants plus tard dans un hameau. En réalité, quelques belles maisons normandes dispersées au milieu de talus plantés. Bergton retira son casque. Paloma en fit de même, secouant une nouvelle fois ses longs cheveux noirs. Elle pensa un instant à la dimension cocasse de la situation. Elle jouait les routardes avec son professeur d'université, transpirant de sueur, le pantalon déchiré, sur les traces de Lupin.
« Ça ne vous dérange pas de quitter un instant la piste d'Arsène et Joséphine ?»«
Pas le moins du monde, si l'on reste sur celle de Lupin. »
Tibermesnil est le cadre d'une autre nouvelle de Lupin qui se déroule entièrement en Normandie. Une courte nouvelle assez célèbre. Elle figure dans le premier recueil « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur » sous le titre « Herlock Sholmes arrive trop tard ». Lupin présente Tibermesnil comme un château historique, une véritable place forte qui renferme notamment la tombe du premier duc de Normandie, Roland lui-même.
Je croyais qu'il reposait dans la cathédrale de Rouen.
Pas pour Maurice Leblanc.
Mais il n'y a aucune trace de château dans ce hameau.
En effet, il n'y en a plus. Mais le château à Tibermesnil a bien existé. Des archives et même de vieilles cartes postales en conservent des traces. Mais il n'était sans doute déjà plus qu'une ruine du temps de Maurice Leblanc.
Que se passe-t-il dans ce château ?
Une belle énigme historique contenue dans un livre ancien baptisé « Chronique de Tibermesnil », volé par Lupin à la Bibliothèque nationale.
Les yeux de Paloma pétillaient de nouveau. Quel est l'objet de l'énigme ?
L'entrée d'un souterrain. La clé de l'énigme repose dans une formule inventée par Henri IV, qui, de passage à Tibermesnil, utilisa le souterrain pour passer la nuit avec la plus belle femme de Normandie, Louise de Tancarville. Pour un esprit supérieur comme le vôtre, la formule qui commande l'entrée du souterrain sera enfantine à décoder. Elle est assez connue. La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et on va jusqu'à Dieu.
« Je vois, »
fit Paloma sans hésiter.
« H, R, L, toutes les trois sont contenues dans le mot « Tibermesnil, c'est pas sorcier. »
Bergton observa la belle étudiante avec une admiration sincère.
« Vous êtes décidément une jeune femme très brillante. Je vais finir par douter que vous n'ayez jamais lu Lupin. » En effet, la clé de l'énigme repose sur les 12 lettres du mot Tibermesnil. 12 lettres en relief gravées dans la bibliothèque du château et sur le tombeau de Roland dans une chapelle à 300 mètres du château.
12 lettres, toujours 12.
Oui, Leblanc le précise. Comme il précise que le souterrain est composé de 8 escaliers de 12 marches chacun.
Instinctivement, Paloma toucha le dodécaèdre de cristal de son collier.
Je vous passe les détails de la nouvelle qui met Lupin aux prises avec Herlock Sholmes.
Paloma sortit sa carte et entoura Tibermesnil.
Vous pensez vraiment qu'en ce moment, sous nos pieds, se trouve ce souterrain, la chapelle et le véritable tombeau de Roland ?
Qui sait ?
Avant que je range ma carte, rien d'autre à signaler dans le coin ?
Si. À une dizaine de kilomètres, le bourg de Limésie. Lupin prend le nom de Raoul de Limésy dans plusieurs aventures, notamment dans La Demoiselle aux yeux verts.
Je note, professeur.
Paloma, par mégarde, saisit sa carte de la Normandie à l'envers. Une fraction de seconde, une illumination traversa son esprit pour en sortir immédiatement. Elle regarda un long moment la carte, sans que son intuition ne revienne. Pourtant, l'espace d'un instant, elle avait été certaine de lire sur la carte, presque de façon subliminale, des lettres, géantes, cohérentes. Elle regarda longuement la carte, mais elle n'y voyait plus désormais que les informations routières banales.
« Un problème ?» s'inquiéta le professeur.
Paloma fit signe négativement de la tête. Elle demeura pensive en remontant sur sa moto.